Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
Le sage de Badjangara, Amadou Ompateba, disait ceci: la beauté d'un tapis réside dans la diversité de ses couleurs. S'il n'y a que du blanc, ce serait un drap blanc. S'il n'y a que du noir, ce serait un pagne de deuil. Et moi, je dirais que la beauté d'une œuvre d'art réside dans la créativité, l'ingéniosité et tout l'amour que son auteur met à la concevoir. Merci de votre constante fidélité au programme des Studios Tamani. C'est l'heure de votre émission Culture, le Club de Tamani, l'émission qui vous parle de plusieurs aspects de la culture malienne. Aujourd'hui, nous allons nous apesantir sur l'art plastique. C'est quoi déjà l'art plastique? Qui est artiste plasticien? Vit-il de son art? Les productions sont-elles appréciées à leur juste valeur au Mali? Et c'est Abdou Welegem, artiste plasticien, qui va éclairer notre lanterne sur ces questions. Il est notre invité. Nos chroniqueurs sont aussi fin prêts pour alimenter les différentes rubriques de cette émission. Et la bonne musique ne fera pas non plus défaut. Au micro pour la présentation, Lala Diarra Touré et Aïssata Diarra. Bonsoir à tous. Bonsoir Aïcha, je vois que tu as sorti tout ton arsenal déjà.
Bonsoir Lala, oui, c'est bientôt la fête, donc il faut se faire belle.
Je suis d'accord avec toi, mais nous allons prendre le devant dans ces studios en faisant les shows avec ce morceau de Seiba Kanouté. Il nous chante « Maman Apoutchou ».
Établissement Salim Traoré, Balino Montana, Yeni Touré Manjou.
Ablo, on est vite.
Sur YouTube, Lala, c'était à l'instant le titre Maman Apoutchou de Seiba Kanouté, un jeune talent de la musique malienne, un titre sorti il y a 2 ans.
Merci Aïcha. Allons à présent nous imprégner de l'actualité de la semaine, la revue de la presse.
La revue de la presse.
Et pour nous faire le point de l'actualité de la semaine, nous allons recevoir Juliette Koulibaly. Bonsoir Juliette.
Bonsoir à vous Lala et Aïcha ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Alors les journaux ont essentiellement traité les sujets suivants. Le marché de moutons à quelques encablures de la fête de Tabaski. Également près des 200 Maliens déguerpis à Abidjan sont rentrés au pays. Les aigles du Mali en mauvaise posture dans leur groupe.
Tout à fait. Alors que les clients dénoncent la cherté des moutons, les vendeurs déplorent la lenteur du marché. Ainsi, les échos titrent « Les marchands de bétail déplorent la lenteur du marché ». Dans ce numéro du quotidien de Diamana, des commerçants de moutons disent leur inquiétude face au manque de clients. La situation actuelle du marché nous fait peur parce que le marché est bondé de moutons. Mais il n'y a pas d'acheteurs en ville, pas de clients. Les gens viennent discuter mais n'arrivent pas à acheter quand même bien que les moutons se vendent à 50 000 et 60 000. Témoigne un revendeur. L'Indépendant aussi relève la faible affluence dans sa parution de ce jeudi 13 juin. Le journal titre à sa une, à 4 jours de la fête de Tabaski, prix exorbitant des moutons et faible affluence au point de vente. Pour ce quotidien privé, les prix des ovins sont jugés excessifs par les acheteurs. Ils oscillent entre 100 000 et 350 000 francs CFA et plusieurs facteurs expliquent cette flambée qui va crescendo au fil des années. année. Selon des éleveurs, l'insécurité dans les régions du centre et du nord a drastiquement réduit le volume de bétail transporté sur Bamako. Pour des clients aussi, une autre raison explique cette hausse, c'est l'exportation des moutons vers des pays voisins comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, entre autres. Quant à l'indicateur du renouveau, il a annoncé le lancement ce jeudi 13 juin de l'opération de vente promotionnelle de moutons par le gouvernement, appelée Opération Tabaski. Elle se tiendra jusqu'au 17 juin dans les communes de Bamako et dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. L'opération Tabaski a trois objectifs, rapporte le journal qui cite le ministère de l'élevage. Il s'agit d'approvisionner les grandes villes en moutons dans un rapport qualité-prix avantageux. Il vise aussi à réguler les prix et à réduire la spéculation.
Juliette, des Maliens installés en Côte d'Ivoire sont rentrés au bercail ce mardi 11 juin.
Tout à fait, Aïcha. 182 Maliens en provenance de la Côte d'Ivoire sont arrivés mardi dernier à Bamako. Déguerpissement à Port-Boué en Côte d'Ivoire, le Mali accueille une deuxième vague de 182 victimes, écrit Info Matin dans sa parution de ce jeudi 13 juin. Selon le journal, ces 182 Maliens étaient installés à Abidjan. Ils ont décidé librement de rentrer au pays après que leurs habitations ont été touchées par des opérations de déguerpissement du parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué en Côte d'Ivoire, explique le journal qui précise que une première vague de 150 Maliens est arrivée le 7 juin dernier. Parmi ces rapatriés figurent des femmes, des enfants, des personnes âgées, explique ce quotidien privé. Le Républicain titre à sa une, victime de déguerpissement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une deuxième vague de 180 Maliens regagne le bercail. Selon ce quotidien, c'est aux environs de 18h20 que les trois quarts transportant les 180 Maliens se sont immobilisés à la Tour d'Afrique. Sur place, ils ont été accueillis par les responsables du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Aga Atayer. Sachez que toute l'attention nécessaire sera portée sur chacun d'entre vous, a déclaré devant les Maliens rapatriés le ministre et Moussa Aga Atayer de poursuivre. Je voudrais vous inviter au calme. Ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui doit arriver. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur les politiques intérieures de l'État.
Et on va aborder le troisième sujet, Julie. Le Mali tenu en échec par le Madagascar, score nul. Un résultat qui a suscité beaucoup de polémiques.
Effectivement, mardi dernier à Johannesburg, les Aigles du Mali ont été accrochés par les Baréas de Madagascar, 0-0. Cela après la défaite concédée 4 jours auparavant contre les Black Stars du Ghana. Que des regrets pour les Aigles, écrit l'Essor. Selon le quotidien national, après la défaite 2-1 face au Ghana jeudi dernier au stade du 26 mars lors de la troisième journée, le Mali a encore très Les Aigles ont fait un match nul contre les Baréas de Madagascar dans un match délocalisé en Afrique du Sud. Pour l'Essor, le Mali n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour cette fenêtre FIFA, à savoir faire le carton plein et s'emparer de la première place du groupe. Les Aigles ont plutôt perdu 5 points sur 6 possibles. Avec 5 points, donc le Mali se voit distancé par le Ghana, les Comores qui ont chacun 9 points, le Madagascar 7 points. L'indicateur du renouveau est revenu sur les conditions de voyage de l'équipe malienne pour Johannesburg. Ainsi écrit le journal Match Madagascar-Mali, le voyage de la honte. Selon le quotidien du groupe Renouveau, l'équipe malienne a voyagé dans des conditions difficiles pour ce déplacement en Afrique du Sud. La délégation est partie par un vol commercial. Et après le match, une partie est restée bloquée à l'aéroport faute de billets retour confirmés. Toujours selon l'indicateur du renouveau, beaucoup de joueurs ont finalement quitté la capitale sud-africaine par leurs propres moyens, laissant sur place une demi-douzaine de personnes, dont les journalistes et les membres du cabinet du ministre, rapporte le journal. Malgré le fait que le ministre des Sports a indiqué de situer les responsabilités, beaucoup qualifient ce voyage de honte nationale. Lala.
À tout à l'heure, Juliette Koulibaly pour la version Bamanankan de cette revue.
Merci beaucoup, Juliette. Aïcha, je propose qu'on parte avec la rubrique Coulisses de l'info.
les coulisses de l'info.
Dans cette rubrique, aujourd'hui, nous touchons à un point clé du traitement de l'information.
Oui, Aïcha, il s'agit bien des sources. Dans la collecte de l'information, le journaliste est amené à interviewer des personnes ressources.
Les informations que ces dernières lui donnent doivent en réalité être vérifiables et traçables.
Fatoumata Kodjo s'est entretenue avec Mamoudou Bokoum, journaliste et président de l'URTEL sur le sujet. Voyons ce qu'il sort de cet entretien.
Une source d'information, c'est-à-dire là où provient l'information du journaliste, notamment les témoignages des citoyens, les témoignages des experts, les témoignages des spécialistes dans différents domaines, ce qui permet aux journalistes de donner des infos sur différentes thématiques bien déterminées. Tantôt, ça peut être comme des interviews directes ou téléphoniques. Souvent, c'est des sources qui proviennent des événements naturels, notamment la catastrophe. Bien, ça, c'est la provenance de l'information. Maintenant, pour parler de cela, il faut qu'il y ait des témoins pour en discuter. Donc, la source d'information, c'est là où provient les informations, c'est-à-dire les personnes et ressources qui permettent aux journalistes de se prononcer ou d'expliquer aux auditeurs les différentes thématiques qu'ils abordent.
Alors, quelles sont les sources fiables?
Les sources fiables, ce sont celles-là qu'on peut vérifier. Les sources fiables, ce sont celles-là qui ont la légitimité d'en parler. Les sources fiables, ce sont celles-là à qui le journaliste fait confiance après vérification, parce que chaque source qui te donne une information, derrière chaque source, il y a une intention, il y a un intérêt. Donc c'est au journaliste quand même de procéder à la vérification de ces informations pour que cette source soit crédible.
Alors le journaliste, il fait ça comment?
Le journaliste, il recoupe l'information à travers la confrontation des différents points de vue sur un aspect de la chose. Je vous donne un exemple. Si quelque chose se passait aujourd'hui dans un quartier de Bamako et que le journaliste est appelé à couvrir ça, il cherche obligatoirement des témoins. Maintenant, après avoir eu recueillir le témoignage d'une personne, il faut confronter avec le témoignage d'une autre, voir une troisième personne pour voir la fiabilité de l'information qui a été donnée par la première source. Donc, c'est après recoupement qu'un journaliste puisse savoir qu'une source est crédible.
On parle de diversification des sources. Pourquoi est-il important de diversifier les sources?
Vous savez, les événements, les gens ne les suivent pas de la même façon. Les gens n'ont pas la même capacité d'expliquer les choses. On peut suivre ensemble un accident et chacun, en donnant des explications, le donne à sa manière. Tantôt, il y a certains qui déforment, tantôt certaines personnes ajoutent. Mais le factuel, c'est-à-dire ce qui a été fait de façon générale, tu trouveras que tous les interlocuteurs que tu as introduisés peuvent te dire que voilà, c'est un accident entre tel ou tel engin. Ça, c'est le factuel. Donc, c'est pourquoi il est important de diversifier les sources pour vraiment confronter les différents points de vue afin de pouvoir trouver la véracité de cette information avant diffusion.
Est-ce important pour un journaliste de protéger sa source?
C'est obligatoire. Les sources d'un journaliste, ce sont ses clients. C'est comme un boutiquier qui ne respecte pas la volonté des clients, les clients ne reviendra plus. Donc, nous aussi, la protection des sources, c'est obligatoire. Selon notre code d'éthique et de la déontologie, on est obligé de protéger nos sources qui veulent être protégées. Non seulement ça te permet d'avoir d'autres sources crédibles, d'avoir d'autres clients pour vraiment diversifier ton carnet d'adresses, et ça fait que les gens vont avoir confiance en toi.
Comment le journaliste doit faire pour ne pas être manipulé par sa source?
Le journaliste doit se préparer davantage. C'est-à-dire, chaque sujet qu'on doit traiter, il faut faire des recherches sur le sujet. Toi-même, tu te prépares pour ne pas que ton interlocuteur ou l'expert qui va se prononcer sur le sujet t'amène en bateau, comme on le dit. Donc, cela va de soi. Il faut d'abord quand même soi-même se préparer sur le sujet et faire des recherches sur le sujet et faire des recherches sur ta source, celui qui va intervenir sur ton antenne ou dans ton micro, voir ton son tempérament, voir un peu sa façon de parler. Est-ce qu'il a l'habitude de faire des publications par rapport à la thématique donnée? Est-ce qu'il s'est prononcé une fois sur la question? Tu fais toutes ces recherches-là pour pouvoir mieux préparer ton questionnaire, pour pouvoir mieux rebondir sur ses réponses, pour pouvoir mieux se préparer afin qu'il ne t'amène en bateau aussi.
Voilà qui est bien noté. Merci Fatoumata Kodjo.
Il est temps d'accueillir notre invité culture.
L'invité culture.
Nous recevons ce soir un artiste plasticien qui fait de la peinture, de la sculpture, du bongolan et j'en passe.
Oui Aïcha, c'est exact. Il se nomme Abdou Ouleghem. Abdou Ouleghem, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur ce plateau.
Merci.
Tout d'abord, c'est qui un artiste plasticien et comment vous êtes venu dans l'art?
Une question très intéressante. Mais est-ce qu'on devient artiste? Non, je crois que... on est artiste. Et après, il y a des écoles. Moi, je suis passé par l'INA, l'Institut National des Arts. Les arts plastiques, pour moi, c'est la forme supérieure même de la chose. C'est là où l'artiste peut s'exprimer partout, avec des formes, en transformant des choses. Quand dans le mot plastique, il y a quelque chose qui est très intéressant. Ça s'étire.
L'élasticité.
L'élasticité de la chose, il n'y a pas de limite. Moi, je me dis, je ne fais pas de l'art, je vis l'art. Donc il y a une différence entre celui qui va te dire je fais l'art et celui qui la vit. Moi je la vis depuis l'enfance, donc je ne fais que ça toute ma vie.
Et c'est, selon vous, c'est qui un artiste plasticien?
L'artiste plasticien, vous êtes en train de me poser une question qui va me déranger un peu. Vous me dites de me définir moi-même. Mm-hmm. Et moi je ne saurais me définir, voyez-vous, parce que tous les jours je me découvre. Je me découvre avec la matière, je me découvre avec tout ce que je peux toucher, avec tout ce qui m'entoure. Je transforme le bois, je transforme le tissu, je transforme la matière, même l'eau, même la parole. Parce que je suis plasticien, je ne me limite pas seulement à la peinture. Je fais de la sculpture, je fais du dessin. Et c'est la somme de tout ça qui fait de quelqu'un un plasticien. Un plasticien, c'est la personne qui ne s'arrête pas. Qui n'arrête pas de peindre, qui n'arrête pas de créer, qui n'arrête pas d'être inspiré par ce qui l'entoure. Et moi, je me vois dans cette corde-là. Donc, du coup, j'ai du mal à expliquer qui je suis.
Et voilà qu'on a une explication de qui est un artiste plasticien. C'est Aïcha.
Alors, pourquoi vous vous êtes orienté vers ce domaine précis?
Parce que depuis enfant, je ne fais que ça. J'ai beaucoup fait l'école buissonnière quand j'étais au premier cycle. Déjà, je faisais à l'époque, on avait un seul livre de biographie ou de géographie. Donc, les professeurs m'appelaient, le gars, il faut nous dessiner le squelette au tableau et les autres prenaient ça comme référence. Donc depuis le premier cycle, moi j'ai la chance de dessiner au tableau, de faire ses formes. Tu vois, donc du coup ça m'a accompagné toute ma vie. Donc c'est quelque chose que je peux pas... C'est dans mon sang quoi. Je peins, je couds à la main. Je fais des costumes de cinéma, je fais des décors, je suis dans l'esthétique.
Un artiste complet.
Je touche à tout, donc j'ai du mal à expliquer. J'ai travaillé avec l'un des plus grands metteurs en scène au monde, dans le théâtre, pour travailler la matière. J'ai été sur scène aussi comme comédien et comme décorateur et comme costumier aussi. Donc porter trois casquettes sur une pièce de théâtre avec Peter Brook, il faut être plasticien pour le faire. Il faut être comme cet élastique là qu'on peut tirer. Il y a toutes les sensibilités pour le faire.
Très intéressant, monsieur Ouleghem. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un message que vous véhiculez à travers vos œuvres?
À travers mes œuvres, toujours je véhicule un message. Mmh. Toujours. Je vous donne un exemple tout court. En 2012, quand j'ai arrêté avec Peter Brook, j'ai décidé de rentrer définitivement au Mali. Je suis venu au Mali à l'époque. Je suivais les médias, les réseaux sociaux. Je voyais des militaires maliens qui étaient égorgés. J'avais très mal. Je me dis, mais mon pays est devenu quoi? Et quand je suis descendu à l'aéroport, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des soumous partout. Ça m'a beaucoup choqué. Je me dis, mais le Malien, c'est des Maliens qui sont en train de tuer au nord. Et j'ai fait une exposition qu'on appelle Ultime Sacrifice. Je l'ai fait à la Galerie Médina pour dénoncer le djihadisme, pour dénoncer le fait qu'on détruit des monuments à Tombouctou, Al Farouk. C'est un monument qui me parle. Pour tout tomboctuicien, il faut me dire quelque chose. Je me dis non, il faut que je me lève avec mon pinceau pour faire mon combat. Donc, je n'ai pas hésité une seconde à me lancer et à travailler cette matière qui est cette violence qu'on a connue au Mali, qui ne vient pas de nous. Quoi. Donc, j'excelle toujours dans le domaine de l'art, je n'arrête jamais.
D'accord. Mais généralement, hormis cet événement-là, qu'est-ce qui vous inspire d'habitude?
Ce qui m'inspire, j'ai peur de le dire, c'est la mort.
Ah bon?
Ah oui, la mort m'inspire. Parce
que... Mais personne n'y échappe. De toutes les façons, personne ne sortira vivant de cette vie.
Parce que dans la mort, je donne vie à la mort. C'est comme la parole de Dieu. Dieu dit, de la mort, je sortirai le vivant. Dans l'art aussi, je suis quelqu'un. Dans la sculpture, je suis quelqu'un comme ça. Je vois un bois mort, je le ramasse.
Vous lui redonnez vie.
Je lui redonne vie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce tronc? Qu'est-ce qui se cache dans ce bout de pierre que j'ai ramassé? Et je lui donne vie. Ça peut être une femme, ça peut être quelque chose. Donc je suis inspiré par ça parce que la mort m'a marqué aussi toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été marqué par la mort de mes frères. J'avais des aînés. Mon aîné était au Beaux-Arts. Il est de la même promotion que Omar Kouita. Il est décédé. Il n'a même pas fini l'INA. Et l'année suivante, je suis venu à l'INA. Et le second aussi est mort. Donc la mort m'a tellement frappé du coup. La mort m'a grandi en même temps. Ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, de savoir que sans la vie, il n'y a pas la mort. et sans la mort, il n'y a pas la vie aussi. Wow. Elle m'inspire.
Ouais, très inspirant. Alors, merci déjà, M. Abdou Eleghem. Je rappelle que vous êtes artiste plasticien, très talentueux, j'ai envie d'ajouter. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission.
Oui, Lala, nous allons juste souffler un peu en musique. Nous allons partir jusqu'au nord du Mali pour retrouver Baba Sala. Il nous chante ici, Takamba.
Savourer un pur délice de l'artiste Baba Sala, Takamba. L'enfant du Nord maîtrise à la perfection la guitare. La preuve, nous venons de l'écouter tout de suite dans ses titres, sortis en 2005, Aïcha.
Nous savons que vous avez passé un temps au nord du pays, M. Eleghem. Alors, est-ce que cette chanson vous rappelle des choses?
Ça me rappelle beaucoup de choses parce que mon cordon ombilical est au nord du Mali. C'est là où on l'a enterré. Donc, pour me retrouver, j'ai besoin du Nord. Et je peux dire que c'est le Nord, ma source d'inspiration quelque part aussi, parce que le désert, le vent, la vie culturelle du Nord me parle plus que tout. Et surtout, à travers le Takamba que je viens d'écouter, le Takamba, c'est de Tombouctou à Gao, de Gao à Bourem, de Bourem à Bamba, de Bamba à Takamba. Il y a une ville qui s'appelle Takamba aussi. Donc ça m'interpelle beaucoup, la musique du Nord.
C'est vrai que le Nord du Mali est vraiment riche en culture. Alors, M. Eleghem, selon vous, quel est l'état de l'art plastique au Mali de nos jours?
L'état de l'art plastique au Mali, une bonne question. Je vais vous faire un petit historique de l'art plastique, parce que moi, quand je suis venu au Beaux-Arts, à l'époque, il n'y avait même pas de galerie à Bamako. On avait que l'Institut français pour exposer. Et ces derniers temps, je commence à voir certaines galeries qui émergent. Donc, du coup, je commence à voir des jeunes aussi qui ont l'opportunité d'exposer. Mais là où le bât blesse, c'est qu'on doit rentrer en profondeur. Pour moi, il y a une légèreté. On prend l'art légèrement. Et pour le Malien, l'artiste, c'est le musicien. Pour le Malien, l'artiste, c'est le danseur, c'est le comédien, c'est pas le plasticien. Or, le plasticien, c'est la personne qui pense, qui réfléchit, qui vit avec philosophie, qui est aussi visionnaire. Donc, ces derniers temps, moi, je me dis qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer parce que la nouvelle génération, ils ont une chance inouïe parce qu'il y a des galeries ici, ils ont l'opportunité d'aller exposer à l'extérieur. Avant, ils n'avaient pas ces opportunités-là. Aujourd'hui, ça commence. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui commence, mais on doit mieux faire parce qu'on est dans une forme de... Il y a une forme de médiocrité qui ne dit pas son nom ici, qu'il faut dénoncer souvent. Parce que souvent, je reçois les élèves du conservatoire. Ben là, parce qu'ils viennent faire les stages chez moi. Le niveau n'est pas ça du tout. On a besoin de formation, on a besoin d'élever le niveau. Le Mali est très riche. C'est le pays le plus riche culturellement. J'ai voyagé partout dans le monde. Je n'ai jamais vu un pays aussi riche que mon pays, qui est le Mali. Parce que le Mali, c'est le Peul, c'est le Dogon, c'est le Bozo, c'est le Mianga. Il y a cette diversité. Comme au début, tu parlais de tapis dans le texte d'Ampateba. C'est exactement le Mali, c'est ce tapis-là. Et il est temps pour nous les Maliens de montrer au reste du monde ce qu'on a comme matière, comme valeur à montrer. Il y en a tellement, ça ne finit pas. Nos ancêtres ont sculpté. Où sont ces sculptures? Dans des musées en Occident. C'est des artistes anonymes dont personne ne parle. Et aujourd'hui, Hollywood va jusqu'à s'inspirer de ces gens-là, de ces sculpteurs anonymes qui ont sculpté des têtes, des extraterrestres, des trucs. C'est toujours nous. Donc, franchement, moi, je crois qu'on va pomper pour que les arts plastiques puissent aller.
C'est vrai que vous avez évoqué le défi de la formation, mais est-ce que de nos jours, les jeunes sont orientés, sont attirés par ce domaine-là? Parce qu'il faut le dire, ça ne rapporte pas beaucoup. L'argent, parfois, c'est lent. Quelle analyse est-ce que vous faites?
L'analyse que je fais, parce que moi, je ne fais pas l'art, mais je la vis. Moi, depuis enfant, j'ai compris que c'est la passion qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait la passion. J'ai compris que ma passion, là, c'est ça qui me rapporte. Et la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont pressés. Ils veulent avoir de l'argent tout de suite. Ils sont mal formés. Dès que tu donnes un bout à un jeune, il croit qu'il a tout compris. Il part avec. Et ça, ça pose des problèmes. Parce que les jeunes ne s'adonnent pas à ça comme avant. Moi, j'ai enseigné au second cycle. Tous les élèves que j'ai eu au second cycle, même demain, ils m'appellent.
Quelle discipline?
Mais le dessin.
Le dessin, naturellement.
Et pourtant, je n'étais pas prof, mais je l'ai fait volontairement pour aider des jeunes. Et à l'époque, je voyais des jeunes qui étaient motivés. Mais ces derniers temps, les jeunes sont trop distraits. On les a trop dit, je ne sais pas, il y a un manque de concentration, un manque de... Ils ont vite envie de gagner de l'argent. Moi, je suis en train d'aller vers la soixantaine. Et pourtant, on a galéré, nous. J'ai la vie, donc je vais dire à ces jeunes de s'accrocher, de ne pas... Ils sont trop pressés.
Trop pressés que la musique s'annonce mal. Ouais.
Et les défis de la formation, nous voyons qu'il y a des jeunes qui ont des potentialités, mais qui finissent par se décourager, faute d'encadrement et d'appui.
Mais c'est clair. Moi, je me suis accroché parce que l'art est dans mes veines. Moi, j'ai pu m'accrocher. Imagine-toi, ma promotion en 86, on était au nombre de... Je crois que notre promotion, aux arts plastiques, on était au nombre de 15. Aujourd'hui, il y a un qui a l'artisanat qui sculpte. Tout le reste, ils sont devenus des policiers, des douaniers. Et pourtant, ils ont le diplôme des beaux-arts.
Ils ont dérouté.
C'est pour te dire que... On dit que l'art... Voilà, beaucoup de gens disent que l'art ne nourrit pas l'artiste. C'est faux, il faut être passionné d'abord. Si tu n'es pas passionné, si tu crois que l'art, ce n'est que de l'argent, ben écoute, tu ne vas pas le faire. Et ces jeunes croient que c'est de l'argent. Mais une fois que c'est devenu une passion, comme je l'ai dit, c'est la passion qui fait le
l'argent.
Voilà.
Et justement, dites-nous, Monsieur Oleguem, êtes-vous présent, vous, artiste malien, plasticien, lors des rencontres internationales?
Oui, j'ai eu cette chance depuis très jeune. Déjà en 87, j'ai participé à un premier festival de jazz à New York. Et après, moi, Oleguem, j'ai eu la chance d'exposer partout dans le monde, à la rencontre des chefs d'État au Japon, à la CICAD, à la rencontre par Bankart, j'ai été invité pour ça. Et puis, j'ai traversé toute la Suisse avec Helvetas en 2000. Avec un programme pour enseigner dans des écoles suisses les techniques maliennes, le bogolan, le savoir-faire du coton. On a parlé du coton biologique. Donc, à divulguer en tant que message, en tant que Malien, à montrer notre savoir-faire. Même, je continue à le faire, je continue à avoir des expos, je refuse certaines expositions. Et présentement, l'expo qui est en cours, c'est la Biennale de Dakar où j'ai été invité. Je crois, si je ne me trompe pas, je suis le seul Malien sur la liste des invités à Dakar.
Ça se tiendra quand?
C'était le mois passé. Ils l'ont décalé pour des problèmes logistiques, décalé pour le mois de novembre. De novembre en décembre, on va le vivre. Parce que c'est un truc international. C'est la seule biennale en Afrique de l'Ouest, pour moi, tient la route.
On espère que le Mali va rayonner comme toujours. Aïcha?
Alors, comment les politiques publiques doivent-elles appuyer ce secteur pour que les acteurs puissent s'épanouir, Monsieur Oleguem?
Vous partez dans les bureaux. Moi, je vous donne un exemple. Je suis trop direct, hein. Je m'excuse. Le ministère de la Culture, ma première fois au ministère de la Culture, j'étais dégoûté à cause du mobilier, à cause de ce que j'ai vu, des rideaux qui viennent de Dubaï, des tables de toc. Tandis qu'au Mali, il y a des artisans qui ont le savoir-faire, qui ont un savoir-faire. Je me dis, mais à quand est-ce que l'État va s'intéresser aux artistes et aux artisans? Et en tant que Malien, j'ai eu la chance aussi d'être dans des ambassades hors du Mali. Je ne vois que le drapeau du Mali est... le tableau, la photo du président. J'étais tout le temps énervé. Je me dis, mais à quand est-ce qu'on va représenter notre pays? À quand est-ce qu'on va montrer le génie du Malien? Parce que des génies, il y en a. Donc, c'est à l'État de prendre une vraie politique culturelle. Et pour le moment, il n'y en a pas du tout. Il y a des événements culturels. Chacun se fait son oseille de côté. Il y a des festivals qui ne finissent jamais. Festival temps. C'est juste pour avoir des sous. C'est l'événementiel. Ça ne parle pas aux Maliens. Ça ne parle plus aux Maliens. Et c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ils ne sont pas intéressés par la culture malienne du tout. Moi, quand je vois aujourd'hui, même dans la rue, quand je vois nos rues, je me dis, nous sommes qui là? Qui sommes-nous? À quand est-ce qu'on va se mettre en valeur? À quand est-ce que nous, Maliens, Africains, on va avoir le bon niveau? Et il est temps, je le dis au plus haut niveau de nos autorités, sur ce plan culturel, qu'on arrête, qu'on prenne les choses au sérieux.
D'accord. L'État doit faire des efforts, mais est-ce que la population également est intéressée par vos productions?
Moi, mon travail?
Les consommateurs, de manière générale, par le travail des artisans.
Par les artisans. Non, je suis désolé, c'est l'extérieur qui nous fait vivre. Franchement, ce n'est pas ni l'État malien, je peux citer une ou deux personnes qui ont l'habitude de me payer des tableaux, 1 million, 2 millions, qui sont des Maliens. Sinon, et je me dis que ça commence à venir parce que je vois des gens qui commencent à s'intéresser à ça. Sinon, c'est pas le Mali qui nous nourrit, hein, honnêtement. Le Malien ne consomme pas. On ne consomme pas. Allez-y dans nos bureaux, qu'est-ce qu'on voit? Allez-y chez les riches, qu'est-ce que tu vois? Tu vas voir des babioles, tu ne verras jamais de l'art. On verra tout chez nos cadres, chez nos dirigeants. On verra tout sauf de l'art.
Des efforts restent à faire. Monsieur Willegem, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Ouais. Prenons à présent le chemin des stades. Du sport dans cette émission, pour nous en parler, nous avons sur ce plateau Khalifa Goïta. Bonsoir Khalifa.
Bonsoir Lala, bonsoir à tous nos auditeurs.
Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu de l'actualité sportive aujourd'hui?
Nous allons parler du limogeage d'Éric Sékou Chèle à la tête des Aigles du Mali des huitièmes de finale de la Coupe du Mali féminine, du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, du coup d'envoi ce soir de l'Euro 2024 du côté de l'Allemagne.
Alors, commençons par le limogeage du sélectionneur des Aigles hier.
Tout à fait, l'information est tombée hier en début de soirée. Éric Sékou Chèle n'est plus le sélectionneur du Mali. L'ancien défenseur des Aigles a été remercié à la tête de l'équipe par le comité exécutif de la Fédération malienne de football. Les deux dernières contre-performances des Aigles contre le Ghana et Madagascar ont eu donc raison du coach Eric. L'entraîneur a donc fait 2 ans à la tête de l'équipe nationale.
Alors Khalifa, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Mali féminine saison 2023-2024 a eu lieu cette semaine.
Oui, ces rencontres débuteront le samedi 22 juin 2024. Le programme complet de ces oppositions est ainsi fait. L'AS Mandé jouera contre l'AFIA FC de Tombouctou. Le centre Lambert Sarr de Maïna croisera les fers contre les Amazones de la commune 5. AS Saramaya de Kati a hérité de l'AS Real. FC Bamakan de Kita comme adversaire à AS Police. Les Tigresses de Bougouni recevront Entente Sportive de Sirakoro. Isfas et Mopti se croiseront. Les Tigresses de Kai vont en découdre avec les Super Lions. Et Teria C recevra AS Momo de Sikasso.
Alors, Khalifa, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 aura lieu le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud.
L'information a été donnée par la Confédération africaine de football via un communiqué transmis aux médias ce jeudi 13 juin 2024. Ce tirage au sort sera effectué dans les studios de Spear Sport à 12h GMT. 48 nations, dont les 4 vainqueurs du tour préliminaire Tchad, Eswatini, Libéria et Soudan du Sud seront répartis en 12 groupes de 4 équipes, a déclaré la CAF. L'instance africaine de football souligne que le coup d'envoi des éliminatoires de cette CAN Maroc 2025 est prévu pour septembre 2024. Au bout de ces éliminatoires, les équipes qualifiées seront au nombre de 23 qui rejoindront le Maroc déjà qualifié en tant que pays hôte. Il faut rappeler que le comité exécutif de la CAF avait désigné le Maroc comme pays organisateur de la CAN 2025 à l'issue d'une réunion tenue le 27 septembre 2023 au Caire en Égypte. Des légendes de la CAF, des représentants des équipes participantes, des membres du comité local d'organisation de la CAN prendront part à cette cérémonie. Donc, plus de doute quant à la tenue de la CAN 2025. Lala.
L'autre grand événement footballistique, c'est l'Euro 2024 Khalifa qui débute ce vendredi 14 juin en Allemagne. Et comme toutes les grandes compétitions sportives, une cérémonie d'ouverture est prévue.
C'est un événement tant attendu, mais qui, pour succéder à l'Italie, 3 ans plus tard, l'Italie remet dès ce soir en jeu son titre dans cette compétition. Ainsi, du 14 juin au 14 juillet, les amoureux du football vibreront au rythme de l'Euro avec un match d'ouverture opposant l'Allemagne à l'Écosse à l'Allianz Arena de Munich à 19h GMT. Avant, une cérémonie d'ouverture aura lieu. Au cours de celle-ci, un hommage sera rendu aux légendes du football allemand et plus particulièrement Franz Beckenbauer. Cette cérémonie qui durera une vingtaine de minutes devra compter à la fois un show musical. L'hymne officiel de l'Euro 2024 Fire sera également interprété à ce moment. À suivre également des affiches alléchantes qui alimenteront la phase de poules, parmi lesquelles Danemark, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas, France, Turquie, Portugal ou encore Suisse, Allemagne. A noter que depuis 2016, la compétition réunit 24 sélections réparties en 6 groupes de 4. C'est tout ce qu'il fallait retenir des informations sportives.
Merci beaucoup Khalifa pour toutes ces informations. Nous te retrouverons la semaine prochaine pour d'autres actualités.
S'il plaît à Dieu.
Une pause musicale s'impose à ce stade, Lala. Alors, qu'est-ce que tu en penses?
Tout à fait d'accord avec toi, Aïcha. Je vous amène au Casso pour retrouver Feu Mangala Kamara dans son titre emblématique Mali Sadio ou encore Mali Tchatcho. Ça dépend des différentes versions de cette belle histoire.
Malheureusement quitté en 2010, Lala, il aura en tout cas laissé son empreinte dans l'histoire de la musique malienne.
Merci beaucoup Aïcha pour cette précision. Nous allons à présent avec la revue de la presse en Bamanankan.
La revue de la presse.
Juliette Inoula Kokura.
C'est Lala.
Anison Djalembi, Bissimla, Sidjo Nkwanana.
Nere, Anison Djalemba, Doka, Segi, Kanatuguni.
Ibina Dorokun, Kibara, Ibina Ufese, Fese, Anye. Anya Yeka Fokuna Funidila, Ukumana, Fin Sabadi Kankacha, Dorokun Kwanana, No Dobe Talike, Seliba Sarakokan. Omana Temekaboy, Malien Kemefla Jate, Ode Segnakana, Bamako, Ugenin Kabo, Usigoro, La Kodivar Jamanaka. Amada Tuguni, Farkulonaja Kunafunia, Ui, Mini Samata Sego Koni, Uka, Qualification Be Sikala.
Awo Lala yoro chamana bagan fere yoro ula akoni yira la ka foko sankelo ulu ya yira ka foko saka usongo ka gelen ko sebe wa fere kelo ulu yera fana ya yira ka foko suku ka suma ode ato les eco ulu koni kumana ka doko ku imboli konana na ko bagan fere la koni ya yira ka foko suku ka suma ko wa ko o bagan fere la nyere ya yira ka foko lu joro le no ko sebe ka kenyeni o la haliaye o la halia miere na yira la ka foko bagan fere yoro falendo tenten sagala ngasanike la tekana mau koni bega na nyininga like ali ka soro ko sagaw be soro yino watan fukata se watan flanyo konama independent ale fana ya yira ka fo ko mau konite ka se kata saka feriyoro la ka chaya uga alamsa bolila ni ore juin ka lok leta ani sabaye u ya yira ka fo ko klenani ya ni selice ko saka soro koni yelele no ko sebe wa saka feriyoro la ko mo te kata ni o saga nunu yere be soro wa mu wa fukata se wa biolon fla nyona ni nyonje ko wa ko kun chama ne be ni so wa yele ina sabula bagamara la ulu ko ni ya ira ka fo kula kana balia mi ko ni be jamana koron fe malablo ani chama che marablo la ko ko ni kera sababu e ka de gun base e bagamara la ma u ka se kana ni saga o ye bamako nga sani ke la o yere fana ya ira ka fo ko kun were mi be ko de aye ko bagamara la nunu be saga nunu be blakata anda fe jamana o konona na ina fo Senegal Côte d'Ivoire Guinée ani jamana waraula mi indicateur du renouveau ale koni ya ira ka fo ko gouvernement be saka feri kenemi sigi songa da matemedia la ko bara ko ni nundo na juin kalo kle tan saba kunwere ko o mi re toye opération tabaski o beto se na fo juin kalo kle tan ani wolo flanata wa bara imbeke ba makoko menu konona na ani kai siga so segu ani moti marabolo konona na ko wa ko kun saba re be ala ministre so ka fo la mi re nye shime baga marakoma ko ka sugu labo bagauna anifana asongo ka nogoya anifana akana ke sababu e do yere ka ta songo gelen sigi u ka saga okuna
Juliette an ye fana ka fo malede minu sigle me kuno war jamana ka ulu do sigina jamana ko ni tarata junya kalok le tan gele
awo aisha ma keme ani bishegini flan yona ulu ko ni bora ko di war jamana kan ka se tarata don bamako ulu munu gena ka bo usigi yoro ula por boela ni ulu yere bisiminana nu ulu yere maliden kun flana mulu yere nana info matin yere ka fola aga kuna foni gafe kono nana mi yere bora e alamsa do juin kalo kleta anisaba ulu ko ni ya yira ka fo ko ni ma nunu yere de alla nyini kasegi kana jamana kono nana ugene sabula u kun sigile me yoro mina ko o ye bagan fere yoro ani bagan faga yoro de ni o rebe por bo yere la Côte d'Ivoire jamana ka ko wa ko yani oche ko ma keme ani biduru nyogona ko ulu nana juin kalo kile ulu fla temene ulu yere chela ko muso bala demsenu bala ani ma koro yere republicain ale ko ni ya yira ka fo ko ni ma nunu mulu nana ulu be ma keme ani bishegin nyogona na ku bisiminala ministry so femi yere nyeshimbe malidon wa ko ma munu yere be kokan ko wa ko ministry Musa Ag Atayer ale ya yira ka fo ku ubina u hakili toni ma nunu kelengele na bela aya yira fana ka fo ko ma ku hakili na sigi ko minu yusoro ko ye ko emi kun kanga ka kedi ko sabula ko ulu te seka unindo jamana wore ka marake chukula
aiwa Julie ame kuma do lantan kan sisa samata seko ulu koni maseka sebaya soro madaga Gaskar Kaukan, Uga Bokulabana, Were Minkera Sababu Ningunun Kanchara Kosowe.
Awa Lala Tarata Temene, Johannesburg, Anga Samata Seko Konimaseku Firi Firi, Madagascar Kaunya Korode, Ukone Flani Bike, Fu Ufa Flabe, Fanfelala, Oduya Soro Ganaka Uktunu Uchi, Klenani Yani Udulantan Ereche. Esor ni alere anga jamanaka kunafoni seven so baye alea yiraka foko uchile ganaka ufe bifla anikele. Ko anga samata seko koni cherenchela tuguni samata sege nunu ulu maseka ufirifiri Madagascar ka onyekoro Afrique du Sud esor ma koni ya yiraka foko uye la nyini minsigi FIFA ka ni nyoron kumbe nunu ere minsigi rasinka ko o masabati sabula ukuntara de ku ka sega kuru chama soro anifana ukake ukakulu tenka ulu ye kuru duru de soro kasoro gana kau ani komor kau ulu koni ka kuru ye konontoy Madagascar aleta ye wulon fly indicateur du renouveau ale sinsina were takatoko de kan Afrique du Sud jamanaka sabula ulu ya ira ka foko maloya de kundo ko anga samata sego ko ulu koni tara pankuru fe ni jamaje pankuru do ko wa ko dolantan ere ko fe ko dolantana do tura kene ka insabula uka pankuru seben o koni kuma sebentia wa ya ira ka foko dolantana do yere de warbo u yere kun ya sa uka seka bo Afrique du Sud jamanaka ko ulu taraka ma tani ko nyogona to ino no ye kunnafoni dilaw ani ministriso yɛrɛ maa dɔw ye. Nga k'a sɔrɔ ministriso yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ kan ka i jɔyɔrɔ fa nin ko la, nga maaw kɔni ko ko nin dugutaga in kɛra maloya de.
I ni ce Juliette, i ka nin kunnafoni nunu na. An be kan bɛ da ɲɔgɔn ye dɔgɔkun wɛrɛ.
I yɛrɛ ni ce Aisha ani Lala ani an lamɛnbaaw bɛɛ.
Peu à peu, nous voilà à la fin de cette émission, Monsieur Willegem. Qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer?
Je remercie le studio Tamani pour clôturer, parce que pour que le message passe, s'il y a des journalistes qui pensent à inviter des gens pour parler des arts plastiques, et parce que c'est un secteur qu'on a, qui est oublié quelque part. Et même les journalistes culturels, il y en a peu. Je ne peux que vous dire merci et bon vent au studio Tamani. J'espère qu'il y aura beaucoup d'émissions comme ça.
On va espérer, Aïcha, et c'est sur ces notes d'espoir que se referme les clubs de Tamani de ce vendredi 14 juin. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Aïcha, merci pour ta compagnie.
Merci Lala et bonne fête à toi.
Merci. Adjara Toutraoré assurait la partie technique. Bonne fête de Tabaski à vous également, très chers auditeurs. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur les mêmes fréquences. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Somptueuse soirée à tous.